La série musicale d'été, Étienne Menu, une histoire française de l'exploration sonore.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série musicale d'été. Cette semaine, une histoire française de l'exploration sonore. Premier épisode, Charles Duvel et le label Okora. Faire tomber les murs, faire s'effacer les frontières, c'est ce qui nous intéresse depuis le début de l'été dans la série musicale. Voici 15 jours, Antoine Lachant perçait le mur de l'Atlantique, et puis la semaine dernière, on entendait de la musique sortir des prisons grâce à Christophe Unger et au fort bien nommé Romain Boulet. Jusqu'à vendredi, nous tâcherons de suivre les pas de quelques explorateurs sonores français, ou du moins francophones, des créateurs ayant en commun d'ignorer dans leur art toute notion de limite et de séparation. Ce sont cinq figures, pour la plupart assez méconnues du grand public, mais dont les travaux et les intuitions ont marqué notre façon et de découvrir la musique. Grâce à eux, nous naviguons autrement dans cet océan de sons dont parlait le critique et compositeur anglais David Toop en 1996. Nous évoquerons donc dès demain le Belge Marc Hollander, voyageur intérieur et fondateur du label Crammed. Puis mercredi, il sera question du mystérieux Hector Zazou et de ses projets pharaoniques au Sahara ou dans le Grand Nord. Jeudi, ce sera Hugues de Courson, connu pour avoir fait voyager Bach ou Mozart en Afrique subsaharienne et en Égypte après avoir mené le groupe Malicorne. Et vendredi, nous plongerons dans le plus nomade de tous les labels français, j'ai nommé Sarava, dont nous retracerons l'histoire et celle de son fondateur Pierre Barou, décédé en 2016. Mais aujourd'hui, nous démarrons avec un explorateur au sens propre, un garçon qui, avec une Jeep et un Agra, a dès les années 60 fait connaître les musiques africaines traditionnelles en France, puis dans le reste du monde. Il s'agit de Charles Duvel, l'homme à l'origine des disques Okora, disques à ce jour encore produits chez Radio France. Cannes 1959. Le réalisateur Marcel Camus reçoit la Palme d'Or pour Orfeo Negro. Cette adaptation du mythe d'Orphée dans les favelas de Rio recevra également l'Oscar du meilleur film étranger l'année suivante. Dans les cahiers du cinéma de l'époque, Jean-Luc Godard y critique avec un peu de mauvaise foi un Brésil vu de Billancourt. Mais cela n'empêchera pas Marcel Camus de poursuivre sa carrière de cinéaste. Il tournera à nouveau très vite au Brésil, puis partira quelques années plus tard au Cambodge. Mais avant cela, il avait réfléchi à une histoire en Afrique et même demandé à un jeune compositeur d'effectuer des recherches sur les musiques africaines. Le projet finira par être abandonné, mais le musicien en question, Charles Duvel, a néanmoins pu se plonger dans une masse d'enregistrements réalisés sur le terrain. Ces documents, il les a consultés dans ce qu'il décrira comme une espèce de grenier, rue Beaujon, près de la place de l'Étoile, à Paris. Le grenier en question, c'est la phonothèque de la Sorafom. Sorafom veut dire Société de Radiodiffusion de la France d'Outre-mer. Il s'agit d'un petit service monté au sein du ministère de l'Outre-mer et dont a été en charge quelques années plus tôt Pierre Schaeffer, inventeur de la musique concrète et accessoirement ingénieur polytechnicien. Sa phonothèque, Duvel en a entendu parler comme du seul endroit en France où trouver des bandes de musique africaine. Au fil de ses recherches informelles, il y découvre aussi des discours politiques ou des chants religieux imposés aux colonisés par les colons. Mais ce qui le fascine, ce sont les captations de cérémonies traditionnelles qui passent en général sous les radars du gouvernement français. Formé au conservatoire, Duvel vit un vrai choc en écoutant ces pièces dont à peu près personne en Occident n'a idée à l'époque. Il en parle comme d'une révélation, d'une musique qui lui montre des horizons inconnus en termes de timbre, de rythme, de combinaison. C'est pour lui une musique on ne peut plus actuelle, vraiment contemporaine, par opposition à la musique soi-disant contemporaine qu'on l'enjoint à pratiquer, mais qu'il juge beaucoup trop abstraite et trop éloignée de la vie. Avec la Sorafom, Pierre Schaeffer a voulu en 1956 proposer une solution vertueuse à un problème que lui avait soumis l'année précédente Jacques Soustelle, alors gouverneur de l'Algérie. Celui-ci s'inquiétait de voir les pays francophones en voie de décolonisation subir la propagande radiophonique pro-soviétique diffusée par les puissants émetteurs de Radio Le Caire. Soustelle souhaitait ni plus ni moins que le polytechnicien lui trouve un moyen de brouiller ses ondes. Mais ce dernier lui aurait suggéré quelque chose d'un peu moins brutal, de plus constructif. Pourquoi ne pas plutôt créer et faire créer des programmes radiophoniques susceptibles d'intéresser les auditeurs locaux ? Se met alors en place une vaste politique de formation des jeunes Africains au métier de la radio. À Maison Lafitte, en région parisienne, est ainsi monté le studio École, où les aspirants journalistes et réalisateurs viennent apprendre à fabriquer des émissions avant de repartir dans leur pays respectif pour y lancer des stations nationales. En 1957, Schaeffer est remplacé par Robert Pontillon à la tête de la Sorafom et vers 1960, ce socialiste proche de Guy Mollet songe à étoffer l'offre musicale des différentes antennes africaines. Il demande l'avis de Duvel, qu'il connaît déjà un peu pour l'avoir souvent vu fureter dans les combles de la phonothèque. Le jeune compositeur est formel, il faut en effet absolument renouveler le fond et pour cela procéder à de nouveaux enregistrements de terrain. Il peut tout à fait s'en charger, ce serait même un plaisir. Et au début de l'année 1961, le voici parti au Niger afin de réaliser une première captation. Cette mission initiale, Charles Duvel l'accomplit équipé d'un Agra, d'une caméra et d'un appareil photo. Il atterrit à Niamey où il rencontre les responsables de l'antenne nigérienne de la Sorafom avec lesquels il parcourt le pays en 4x4. Le disque qui en sera tiré est le premier édité sous l'égide de l'Office de coopération radiophonique, l'OCORA, qui remplacera officiellement la Sorafom l'année suivante. L'extrait que nous entendons est un chant interprété par Ibrahim Agaya, un Touareg griot de l'ethnie Tamatchek, forgeron le jour et musicien la nuit, qui s'accompagne au théarden, un luth à trois cordes, ainsi que de ses compagnons battant le rythme de leurs mains. Durant cette première moitié des années 60, les sorties du catalogue Sorafom Okora servent donc à alimenter les fonds discographiques et les émissions musicales des différentes stations ouest-africaines. Elles sont distribuées de façon assez confidentielle et l'on sait que quelques exemplaires sont offerts en cadeau à des dignitaires locaux. Il est donc étonnant qu'en 1962, une sélection ivoirienne réalisée par Duvel se retrouve récompensée du prix Charles Cros. Cette distinction prestigieuse va donner en France un début d'aura institutionnel à son travail. Il s'agit du disque Musique Baoulée, dont nous écoutons ici une pièce pour chœur masculin, tambour et sistre, les sistres étant des percussions fabriquées avec des coques de fruits que l'on tient à la main en faisant fonctionner un système de coulisses. Fort de cette reconnaissance qu'il n'attendait pas spécialement, Duvel va multiplier ses voyages ethnomusicologiques. Lui, qui n'a pas de formation spécifique dans le domaine, apprend donc sur le tas. Entre 1961 et 1965, il parcourt entre autres le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la Centrafrique, la Mauritanie ou encore la Haute-Volta, qu'on n'appelle pas encore Burkina Faso. Dans la lignée de la Sorafom, l'institution Okora avait au départ une vocation postcolonialiste. Il s'agissait de garder une influence culturelle au sein des anciennes colonies en leur fournissant du matériel ou des programmes radiophoniques. Mais avec les disques Okora, Duvel fait presque tout l'inverse. Il donne aux pays africains récemment indépendants l'occasion de diffuser et faire connaître leurs traditions culturelles et leurs identités régionales au sein de leur pays, mais aussi dans le reste du monde. Ici, par exemple, il capte les chants des paysans de l'ethnie Samba après la récolte au Dahomey, le futur Bénin. On les entend battre la mesure à l'aide d'anneaux qu'ils portent au doigt et suivre les intrigantes ondulations de flûtes traversières appelées fantaroufées. En 1966, Duvel se rend au Tchad. Il en revient les bras chargés de nombreuses bandes dont il tire une imposante anthologie en 3 volumes.
Cette musique folklorique tchadienne, à votre avis, à quel niveau se place-t-elle parmi toutes les musiques que vous avez recueillies?
Il ressort une très grande variété de musiques, des genres très différents, des instruments de musique, des orchestres, des façons de chanter très très différentes, et qui prouvent que même dans une petite partie du Tchad, la musique est extrêmement riche, extrêmement variée, et non pas monotone, comme beaucoup de gens qui ne connaissent pas grand-chose à la musique africaine s'imaginent souvent qu'en Afrique, les gens jouent du tam-tam uniquement, et que c'est toujours la même chose, et que c'est monotone, ennuyeux, etc. Pas du tout.
Ici, trois hommes Massa de la région du Mayo-Kébi jouent de la harpe à trois cordes et assurent la rythmique en entrechoquant leurs avant-bras sur les caisses des instruments. Le chanteur, crédité dans les notes sous le seul nom de Mudaksu, y fait le récit d'un voyage. Alors qu'il se trouve chez les Balari du Congo, Duvel a le privilège de capter un chant en théorie réservé à la vie intime des habitants puisqu'il s'agit d'une berceuse ici chantée par une jeune mère du nom de Marie Mungabio.
Wa wa bunge kwa ratu yinga do wa mwana uyingri ya kana sangu wa 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 bunge kwa ratu yinga do wa mwana uyingri ya kana sangu wa wa bunge kwa ratu yinga do wa butwedi sila munze kula kulongo wa mwana uyingri ya kana sangu wa wa mwana zakuni mata inga sangu wa wa bunyi kwa yatu inga do wa.
Ce genre de musique qu'on croirait presque secrète, on en retrouve sur deux plages d'une des plus fameuses références d'Okora, la collection Musique du Burundi, sortie pour la première fois en 1968 et qui recevra d'ailleurs elle aussi le prix Charles Cros. Les deux pistes en question sont des salutations appelées Akazee, que déclament d'abord une puis deux jeunes filles qui alternent voix de tête et voix de poitrine. Une technique de chant que l'on retrouve ailleurs dans le monde, mais qui dans ce cas précis comporte une dimension presque impudique pour l'auditeur. Entre l'effort accompli et la teneur si délicate de leur performance, on se sent à la fois privilégié et un peu voyeur de découvrir musique si inouïe et si intérieure. Aye, come on, aye, aye, Si Musique du Burundi est un disque plus connu que la moyenne des sorties Okora, c'est parce qu'une autre de ses plages, la dernière, a connu un destin singulier. On y entend un impressionnant ensemble de tambours qui frappera l'oreille d'une célébrité de l'industrie discographique hexagonale, Eddie Barclay. Édite en effet en 1971 un 45 tours qui reprend de nombreux éléments de l'enregistrement original pour en faire ce que l'on n'appelle pas encore un remix. Sorti sous le nom de Burundi Black en pleine ère psychédélique, ce single se vendra à 125 000 exemplaires sans qu'aucun des bénéfices du succès ne soit reversé aux percussionnistes. Seule une sorte de pourboire sera plus tard accordée à l'ambassade du Burundi. L'auteur du remix, crédité sous le pseudonyme de Mike Stevenson, est un homme de studio bien connu du monde de la variété française. Il s'agit de Michel Bernolk, arrangeur de Julien Clerc, Michel Jonas ou encore Michel Berger, pour lequel il orchestrera notamment la comédie musicale Starmania en 1978. Cet album burundais a en tout cas une fois encore offert une jolie visibilité à Vduvel, bien qu'il n'ait en l'occurrence pas été lui-même sur place pour le réaliser. C'est un certain Michel Wulstecke qui s'en est chargé. À partir de 68, le fondateur des Disco Cora trouve en effet moins le temps de voyager, notamment parce qu'il doit assumer de nouvelles responsabilités au sein de l'audiovisuel français. Cette année-là, l'institution Okora est supprimée et la collection de disques éponyme est-elle intégrée à l'ORTF. Installé dans la nouvelle maison de la radio, inaugurée quelques années plus tôt, en 1963, notre ethnomusicologue doit désormais revêtir un costume un peu plus adapté au climat tempéré qui règne à Paris. Mais il continue néanmoins à superviser sa collection de disques depuis son nouveau poste de responsable de la programmation musicale de la DAEC, la Direction des Affaires Extérieures et de la Coopération, ancêtre de l'actuel RFI. Il en vient donc à déléguer la production à d'autres, notamment à Jean Jenkins, une américaine chassée de son pays par le maccartisme et qui s'est prise de passion pour un pays d'Afrique de l'Est alors en pleine mutation politique, l'Éthiopie. Amie de Haïlé Sélassié et femme très libre pour l'époque, Jenkins a réalisé d'innombrables field recordings dans son pays de cœur. Elle concocte pour Okora une anthologie qui fait la part belle aux voix, dont nous allons à présent écouter deux extraits.
Dingo, dingo, dingala, dingo, dingala, zama tingala, zama nobala, baba, tingala, oto, tingala, zama nobala, zama tingala, tinza tingala, nonza tingala, wiru tingala, gizu tingala, zama tingala, oto, tingala, tingala, zama tingala, zama tingala,
On vient d'abord d'entendre deux hommes Guimira, une ethnie des régions forestières au sud-ouest de l'Éthiopie, qui s'adresse à une future mariée. L'un répète le même motif, tandis que l'autre lui répond par des variantes. Le résultat peut évoquer une sorte de doo-wop aux accents brésiliens. Ici, ce sont des jeunes hommes de l'ethnie Sidamo qui s'adonnent à un chant opposant d'un côté plusieurs solistes successifs et de l'autre un chœur masculin développant un bourdon assez spectaculaire.
Never, 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 never
Outre Gene Jenkins, d'autres ethnomusicologues collaborent avec Cocora et sur chaque continent on croise ainsi des explorateurs enregistreurs. En Europe, on a par exemple Thorkild Knudsen, un compositeur et chercheur danois, qui est allé rencontrer les populations des îles Hébrides en Écosse. Il s'agit ici de femmes de langue gaélique qui sont occupées à travailler le tweed. Après l'avoir foulé dans un mélange d'eau et d'urine, voici qu'elles le battent en ponctuant leur effort d'allusions comiques, voire grivoises, comme nous le dit le chercheur scandinave dans les notes de pochette du disque. Ces travailleuses ont environ 80 ans et la voix la plus en avant sur l'enregistrement est celle de Mary Morrison, en gaélique Mairi Eugain Moir. Duvel envoie aussi ses confrères sur le continent américain, plus exactement au Pérou, ici dans une église où l'on joue bien sûr de l'orgue, mais de façon pas tout à fait catholique. Ce sont Pierre Allard et Claude Koenig qui ont réalisé ce terrain à Paucartambo, village de la cordillère des Andes, peuplé de métis et d'indiens. C'est ici un organiste indien, Juan Capistrano Perca, que l'on entend jouer un type de pièce appelée Villancico. Le style mêle influence de la liturgie catholique espagnole à des accents nettement plus andins.
Oh.
En 1974, alors qu'il ne fait plus beaucoup de terrain et qu'il s'apprête par ailleurs à quitter son poste à Okora, Duvel décide de repartir enregistrer. Cette fois-ci, il ne prend pas la route de l'Afrique, mais plutôt celle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en compagnie de son fils Frédéric, qui l'assiste dans la prise de son et d'information. Cette polyphonie féminine comptait pour Duvel parmi les choses les plus singulières et dépaysantes qu'il avait pu entendre lors de ses pérégrinations. L'harmonie des voix déstabilise. C'est que les interprètes chantent non pas en tierces parallèles, comme en Occident, Do et Mi, tout va bien, mais en secondes parallèles, Do et Ré, attention. Une combinaison qui peut presque sonner faux, mais qui fascinera Duvel. Quelques années plus tôt, une sortie Okora réalisée par un autre Danois, Poul Rofzig Olsen, s'intéressait aux pêcheurs de perles du golfe Persique. Enregistrés à bord des bateaux mais aussi à terre, hors saison, dans des maisons communautaires, les marins chanteurs que nous écoutons en ce moment s'expriment en un dialecte qui leur est propre, façonné à partir de leurs diverses langues d'origine et que les non-marins ne comprennent pas forcément bien. Entre la fin des années 60 et le milieu des années 70, Charles Duvel va en parallèle d'Okora développer un intérêt renouvelé pour la musique classique occidentale, qu'elle soit médiévale ou contemporaine. Il s'associe à Barclay pour monter le label inédit ORTF qui publie des œuvres de Guillaume de Machaut comme de Gabriel Fauré en passant par des compositeurs vivants tels que Jean-Claude Éloy. Les enregistrements proviennent en grande partie des fonds accumulés par les orchestres de l'ORTF. De tout le catalogue, seules deux références s'intéresseront aux traditions extra-occidentales, l'une consacrée au gagaku japonais et l'autre à la musique indienne. En 1974, l'ORTF est définitivement dissoute pour céder la place à Radio France. Okora y est intégré, mais Duvel ne s'entend pas avec l'un des nouveaux directeurs en charge de la musique, Pierre Voslinski, et il décide donc de quitter ses fonctions. Celui qu'il remplacera s'appelle Pierre Toureille et il développera avec succès le catalogue Okora pendant les 20 années qui suivront. Mais de son côté, Duvel se retrouve donc libéré de ses obligations, tout en gardant un pied en Afrique, notamment au Gabon, d'où il va alors découvrir un pays qu'il ne connaissait pas, le Nigeria. Peu après son départ d'Okora, Duvel est contacté par le ministère gabonais de la Culture. On lui demande de coordonner la délégation que le pays doit envoyer au World Black and African Festival of Arts and Culture, qui va avoir lieu à Lagos en 1977. Le Festac 77, comme on l'appelle, est un immense événement étalé sur 4 semaines où sont attendus 200 000 spectateurs. À l'affiche sont annoncés rien de moins que Stevie Wonder, Myriam Makeba, Donald Byrd, Gilberto Gil, Sonra et bien évidemment le régional de l'étape Fela Kuti, inventeur de l'afrobeat et opposant notoire au régime. Justement, Fela s'indigne du fait que le Festac serve de vitrine à la dictature militaire et décide, une fois les festivités ouvertes, d'organiser une sorte d'événement off, chez lui, dans sa maison, studio, salle de concert, le Shrine. Duvel ne va pas manquer de fréquenter l'endroit durant les semaines qu'il passe dans la capitale nigériane et il assiste aux concerts officieux des invités officiels. Il rentre en France au lendemain d'une soirée mémorable passée chez le charismatique Nigérian alors que le festival s'est terminé quelques jours plus tôt. Mais à son retour à Paris, il apprend que le Shrine et ses alentours ont fait l'objet d'un raid sanglant de l'armée. La maison de Fela a brûlé et l'on parle même de femmes violées par les soldats. Et puis vers 1978, Duvel choisit de mettre sa vie africaine entre parenthèses pour gagner les États-Unis, où on l'appelle pour une mission qui n'a rien à voir avec son expérience chez Okora. Probablement parce qu'il compose depuis son départ de Radio France des musiques électroniques pour l'image, Duvel se retrouve sélectionné afin de tester un nouveau synthétiseur analogique, le Prophet 5. Le Prophet 5 est fabriqué par la marque américaine Sequential Circuits. Il sera l'un des appareils les plus prisés de la pop électronique des années 80. Ironiquement, il comptera aussi parmi l'un des instruments préférés de Peter Gabriel, pionnier et artisan de ce que l'on appellera bientôt la world music. Une fusion souvent très diluée de touches ethniques et d'arrangements électroniques haut de gamme, située à l'exact opposé des sonorités brutes et hors studio proposées par Okora, mais forcément nourrie par celle-ci. Tout le monde n'aimera pas les alliages stylisés de la world music et certains choisiront de poursuivre le chemin parcouru par Duvel depuis ses premiers émois à la phonothèque. Ils se montreront plus sensibles aux musiques vivantes, actuelles, selon la définition duvelienne, et qu'Okora, à l'époque de Pierre Toureil, continuera de valoriser, comme en témoigne une anthologie sortie en 89, Musiques urbaines à Kinshasa. Réalisé par Bernard Tréton et Guy Level, la collection Musiques urbaines à Kinshasa met à l'honneur plusieurs groupes de rue de la capitale zaïroise. Parmi eux, il y a une formation au nom aussi long qu'évocateur, l'orchestre tout-puissant Likembe Konono numéro 1. Un musicien belge du nom de Vincent Kenis, vivant entre l'Europe et l'Afrique, entend ce titre incroyable, une sorte de transe rythmique et mélodique provoquée par des Likembe électrifiés. Il en cherchera les auteurs durant de longues années avant de les trouver et de les éditer sur le label de son ami Mark Hollander, Kram Disc, dont il sera justement question demain. Dans les années 90, Charles Duvel, lui, est revenu s'installer à Paris et sa passion ethnomusicologique, semble ravivée. Il dispose encore d'une vaste archive de ses enregistrements de l'époque Okora, beaucoup de choses inédites ou à l'époque éditées en version tronquée. Il va donc voir chez Universal un garçon du nom de Jean-Philippe Allard pour lui proposer d'extraire de nouveaux disques de cette manne vieille de 3 décennies. Le directeur artistique est enthousiaste et bientôt naît un sous-label de Philips, l'une des entités de la major, spécialement conçu pour y publier ses enregistrements jamais entendus. Son nom, Prophète, est choisi en hommage aux années américaines désormais révolues de la carrière de Duvel. En tenant à commercialiser ses captations long format des populations qu'il a rencontrées, Duvel impose une vision radicale de l'ethnomusicologie et des musiques traditionnelles. Elles doivent être écoutées dans leur jus, telles quelles, avec les bruits et les gens alentour, mais aussi dans leur durée, qui signe leur réalité sociale ou rituelle. C'est peut-être aussi une façon de dire aux auditeurs que la world music ne fait pas toujours honneur au peuple dont elle s'inspire. Mais aussi, encore, à une époque où les musiques dites du monde commencent à s'imposer en France ou ailleurs dans des déclinaisons plus professionnelles, que les pratiques musicales africaines ou asiatiques ne sont pas nées sur la scène du théâtre de la ville. Au-delà de ce propos que l'on ne peut que présumer, Duvel va en outre étoffer le catalogue de Prophète de nouveaux enregistrements. Des enregistrements qu'il va y réaliser lui-même alors qu'il a dépassé la soixantaine. En 2000, il part ainsi à Mostaganem en Algérie pour y saisir une cérémonie soufie.
بالعلوم اللي يسوى وماذا دروا دروا للصديق الجداوي
الله 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 يا مولانا الله 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 سيدي كن معنا
ماذا صفى وصفى من القلوب اللي صدى وقداش هدى وهدى من المحير ضهراوي
الله 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 يا مولانا الله 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 سيدي كن معنا
وغلا 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 كتب رعد ويسوى وبعدين ما جو ما جو للخلايق يا راوي
الله 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 يا مولانا الله 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 سيدي كن معنا
Autour des mêmes années, soit au début du troisième millénaire, va voir le jour sur la côte ouest des USA un label monté par Alan Bishop et Hisham Mayet, tous deux issus de la scène rock underground. Le tandem ne compte pas y sortir sa musique, ni même celle de ses collègues. Ce qui va constituer tout le catalogue de Sublime Frequencies, ce sont des enregistrements de terrain, réalisés un peu partout dans le monde, du Maroc à Java en passant par la Palestine. La différence de Tide avec le travail de Duvel chez Okora, c'est qu'il s'intéresse autant, si ce n'est plus, aux musiques des villes, et qu'ils vont même jusqu'à commercialiser des bouts de chansons prises au vol sur les FM locales. Ils mêlent sur leurs anthologies des pièces traditionnelles à des chansons infusées de pop ou de techno.
Yeah.
que nous écoutons ici, c'est un titre traditionnel issu de l'anthologie Tribal Music from Ethiopia, sorti en 2012 sur Sublime Frequencies donc, et qui reprend, sans qu'on sache bien si c'est volontaire, la structure de la collection éthiopienne de Dean Jenkins, éditée 40 ans plus tôt chez Okora. Mais on peut aussi y découvrir des classiques de la radio birmane.
You're listening to Myanmar Radio Yangon. We now present morning music.
Dog and
Malgré sa démarche plus pirate que celle de Duvel, Hicham Mayet est un fan inconditionnel du français. Après avoir tenté de le contacter à distance, il se met à faire recherche en venant sur place pour finalement le rencontrer en 2016 en chair et en os, dans son appartement de Boulogne-Billancourt, rue du Point du Jour. En hommage à son travail et à sa longue carrière, Mayet a édité chez Sublime Frequencies un livre rassemblant ses nombreuses photos de voyage et d'enregistrement, agrémenté d'un long entretien avec Duvel. Il y a bien sûr adjoint un CD, une anthologie encore une fois, composée d'inédits venus des quatre coins du monde. En guise de bonus, on peut enfin y lire un texte écrit par Duvel à la demande de l'UNESCO en 1970 sur un sujet qui déjà s'intéressait aux murs qui tombent, c'est un rapport sur la musique orientale en Afrique noire. Mais réécoutons un instant Duvel avec son camarade Pierre Bois, ethnomusicologue rattaché à la Maison des Cultures du Monde, dans une archive de l'émission Système Disque en 2007.
Le discours qui consiste à dire ces musiques sont quand même difficiles d'abord, alors il faut les enrober un petit peu pour pouvoir les rendre plus acceptables, plus digestes. Mais c'est en plus prendre les auditeurs pour des imbéciles.
Mm-hmm. Vous savez, c'est un peu comme pour la cuisine.
Charles Duvel.
La vraie cuisine chinoise, où quand vous la consommez sur place, elle a un parfum, une spécificité. Il y a des... Bon, à partir du moment où on cherche à plaire aux gens qui n'aiment pas trop la cuisine asiatique en supprimant les épices, etc., on en fait quelque chose de complètement différent. Ce qu'on appelle les nems, la plupart du temps, par exemple, c'est devenu quelque chose d'invraisemblable. Ça n'a plus rien à voir avec les vrais nems ou les vrais tiayo du Vietnam, par exemple, quand on les mange sur place. Donc, c'est la cuisine, la musique, souvent, ça a le même genre de problème. «
Le 22 juin 2017, Hicham Mayet organise à Paris, au musée du Quai Branly, une rencontre publique avec Charles Duvel à l'occasion de la sortie du coffret qu'il lui a consacré. L'ethnomusicologue a 80 ans et il semble aussi ravi qu'ému de voir cet exubérant américain d'origine égyptienne lui accorder tant d'honneur. On ignore s'ils sont allés au restaurant ensuite. Duvel, mon... Charles Duvel mourra quelques mois plus tard, le 29 novembre. On écoute en sa mémoire un chant funèbre des Massango du Gabon qu'il avait édité en 1968 sur Okora. La collection Okora Radio France continue aujourd'hui de publier chaque année des dizaines d'enregistrements sous la responsabilité de Serge Noël Ranaïvo. Elle, qui ne doit son existence qu'à la curiosité d'un jeune compositeur venu chercher de la documentation pour une musique de film, a pu être découverte et utilisée par des artistes du monde entier, dont par exemple Nino Rota, lorsqu'il travaillait sur la BO du Satyricon de Fellini. On sait aussi que Serge Gainsbourg lui-même puisa souvent son inspiration dans le catalogue du label. Et aujourd'hui, outre Sublime Frequencies, des labels comme Sahel Sounds ou Awesome Tapes from Africa reprennent le flambeau de la création de Charles Duvel. Nous nous retrouvons demain pour un deuxième épisode de cette histoire française de l'exploration sonore qui sera donc consacrée à Mark Hollander et à son label Crammed. Cette émission a été réalisée par Milena Hellig et préparée par Hugo Jacquemin à la prise de son Nasser Moussaoui. Merci beaucoup à Antoine Villose de la discothèque de Radio France. Tout de suite, vous retrouvez la compagnie des auteurs. Très bon après-midi sur France Culture.